Livre 3. La duchesse Josiane. Vers 1705, bien que Lady Josiane eût 23 ans et Lord David 44, le mariage n'avait pas encore eu lieu. Et cela par les meilleures raisons du monde. Se haïssait-il ? Loin de là. Mais ce qui ne peut vous échapper n'inspire aucune hâte. Josiane voulait rester libre, David voulait rester jeune. N'avoir de lien que le plus tard possible, cela lui semblait un prolongement du bel âge. Les jeunes hommes retardataires abondaient dans ces époques galantes. On grisonnait d'amerets. La perruque était complice, plus tard la poudre fut auxiliaire. À 55 ans, Lord Charles Gérard, baron Gérard et Gérard de Boimley, remplissait Londres de ses bonnes fortunes. La jolie et jeune duchesse de Buckingham, comtesse de Coventry, faisait des folies d'amour pour les 67 ans du beau Thomas Bellasyse, vicomte Falconberg. On citait les vers fameux de Corneille septuagénaire à une femme de 20 ans. « Marquise, si mon visage !» Les femmes aussi avaient des succès d'automne, témoins Ninon et Marion. Tels étaient les modèles. Josiane et David étaient en coquetterie avec une nuance particulière. Ils ne s'aimaient pas, ils se plaisaient. Se côtoyer leur suffisait. Pourquoi se dépêcher d'en finir ? Les romans d'alors poussaient les amoureuses et les fiancées à ce genre de stage qui était du plus bel air. Josiane, en outre, se sachant bâtarde, se sentait princesse et le prenait de haut avec les arrangements quelconques. Elle avait du goût pour Lord David. Lord David était beau, mais c'était par-dessus le marché. Elle le trouvait élégant. Être élégant, c'est tout. Caliban élégant et magnifique distance, Ariel pauvre. Lord David était beau. Tant mieux. L'écueil d'être beau, c'est d'être fade. Il ne l'était pas. Il pariait, boxait, s'endettait. Josiane faisait grand cas de ses chevaux, de ses chiens, de ses perles au jeu, de ses maîtresses. Lord David, de son côté, subissait la fascination de la duchesse Josiane, fille sans tache et sans scrupules, altière, inaccessible, et hardi. Il lui adressait des sonnets que Josiane lisait quelquefois. Dans ses sonnets, il affirmait que posséder Josiane, ce serait monter jusqu'aux astres, ce qui ne l'empêchait pas de toujours remettre cette ascension à l'an prochain. Il faisait antichambre à la porte du cœur de Josiane, et cela leur convenait à tous les deux. À la cour, on admirait le suprême bon goût de cet ajournement. Lady Josiane disait « C'est ennuyeux que je sois forcée d'épouser Lord David, moi qui ne demanderais pas mieux que d'être amoureuse de lui. » Josiane, c'était la chair. Rien de plus magnifique. Elle était très grande, trop grande. Ses cheveux étaient de cette nuance qu'on pourrait nommer le blond pourpre. Elle était grasse, fraîche, robuste, vermeille, avec énormément d'audace et d'esprit. Elle avait les yeux trop intelligibles. D'amant, point. De chasteté, pas davantage. Elle se murait dans l'orgueil. Les hommes, fi donc ! Un dieu tout au plus était digne d'elle. Ou un monstre. Si la vertu consiste dans l'escarpement, Josiane était toute la vertu possible, sans aucune innocence. Elle n'avait pas d'aventure, par dédain, mais on ne lui eût point fâché de lui en supposer, pourvu qu'elles fussent étranges et proportionnées à une personne faite comme elle. Elle tenait peu à sa réputation et beaucoup à sa gloire. Sembler facile et être impossible, voilà le chef-d'œuvre. Josiane se sentait majesté et matière. C'était une beauté encombrante. Elle empiétait, plus qu'elle ne charmait. Elle marchait sur les cœurs. Elle était terrestre. On l'eût aussi étonné de lui montrer une âme dans sa poitrine que de lui faire voir des ailes sur son dos. Elle dissertait sur Locke. Elle avait de la politesse. On la soupçonnait de savoir l'arabe. Être la chair et être la femme, c'est deux. Où la femme est vulnérable, au côté pitié par exemple, qui devient si aisément amour, Josiane ne l'était pas. Non qu'elle fût insensible. L'antique comparaison de la chair avec le marbre est absolument fausse. La beauté de la chair, c'est de n'être point marbre, c'est de palpiter, c'est de trembler, c'est de rougir, c'est de saigner, c'est d'avoir la fermeté sans avoir la dureté, c'est d'être blanche sans être froide, c'est d'avoir ses tressaillements et ses infirmités, c'est d'être la vie et le marbre et la mort. La chair a un certain degré de beauté, a presque le droit de nudité. Elle se couvre d'éblouissement comme d'un voile. Qui eût vu Josiane nue n'aurait aperçu se modeler qu'à travers une dilatation lumineuse. Elle se fût montrée volontiers à un satyre ou à un eunuque. Elle avait l'aplomb mythologique. Faire de sa nudité un supplice, éluder un tantale, l'eût amusée. Le roi l'avait faite duchesse et Jupiter Néréide. Double irradiation dont se composait la clarté étrange de cette créature. À l'admirer, on se sentait devenir païen et laquais. Son origine, c'était la bâtardise et l'océan. Elle semblait sortir d'une écume. Avolo avait été le premier jet de sa destinée, mais dans le grand milieu royal. Elle avait en elle de la vague, du hasard, de la seigneurie et de la tempête. Elle était lettrée et savante. Jamais une passion ne l'avait approchée et elle les avait sondées toutes. Elle avait le dégoût des réalisations et le goût aussi. Si elle se fût poignardée, ce n'eût été comme Lucrèce qu'après. Toutes les corruptions à l'état visionnaire étaient dans cette vierge. C'était une Astarté possible dans une Diane réelle. Elle était, par insolence de haute naissance, provocante et inabordable. Pourtant, elle pouvait trouver divertissant de s'arranger elle-même une chute. Elle habitait une gloire dans un nimbe avec la velléité d'en descendre et peut-être avec la curiosité d'en tomber. Elle était un peu lourde pour son nuage. Faillir plaît. Le sans-gêne princier donne un privilège d'essai, et une personne ducale s'amuse ou une bourgeoise se perdrait. Josiane était en tout, par la naissance, par la beauté, par l'ironie, par la lumière, à peu près reine. Elle avait eu un moment d'enthousiasme pour Louis de Boufflers qui cassait un fer à cheval entre ses doigts. Elle regrettait qu'Hercule fût mort. Elle vivait dans on ne sait quelle attente d'un idéal lascif et suprême. Au moral, Josiane faisait penser au vers de l'épître au Pison, Desinit in piscem. Un beau torse de femme en hydre se termine. C'était une noble poitrine, un sein splendide harmonieusement soulevé par un cœur royal, un vivant éclair regard, une figure pure et hautaine, et, qui sait, ayant sous l'eau, dans la transparence entrevue et trouble, un prolongement ondoyant, surnaturel, peut-être draconien et difforme. Vertu superbe, achevée en vice dans la profondeur des rêves. Avec cela, précieuse, c'était la mode. Qu'on se rappelle Élisabeth. Élisabeth est un type qui, en Angleterre, a dominé 3 siècles, le 16e, le 17e et le 18e. Élisabeth est plus qu'une Anglaise, c'est une Anglicane. De là, le respect profond de l'Église épiscopale pour cette reine. Respect ressenti par l'Église catholique, qui l'a mélangé d'un peu d'excommunication. Dans la bouche de Sixte Quint, anathématisant Élisabeth, la malédiction tourne au madrigal. « Une grande cervelle, odin principessa, » dit-il. Marie Stuart, moins occupée de la question église et plus occupée de la question femme, était peu respectueuse pour sa sœur Élisabeth et lui écrivait de reine et de coquette à prude. « Votre éloignement du mariage provient de ce que vous ne voulez perdre liberté de vous faire faire l'amour. » Marie Stuart jouait de l'éventail et Élisabeth de la hache. Partie inégale. Du reste, toutes deux rivalisaient en littérature. Marie Stuart faisait des vers français, Élisabeth traduisait Horace. Élisabeth, laide, se décrétait belle, aimait les quatrains et les acrostiches, se faisait présenter les clés des villes par les cupidons, pinçait la lèvre à l'italienne et roulait la prunelle à l'espagnole. Avait dans sa garde-robe 3000 habits et toilettes, dont plusieurs costumes de Minerve et d'Amphitrite. Estimait les Irlandais pour la largeur de leurs épaules, couvrait son vertugadin de paillons et de passequilles, adorait les roses, jurait, sacrait, trépignait, cognait du poing ses filles d'honneur, envoyait au diable Dudley, battait le chancelier Burleigh, qui pleurait, la vieille bête, crachait sur Matthew, Colt et Hayton, souffletait et sexe, montrait sa cuisse bas son pierre, était vierge. Ce qu'elle avait fait pour Bassompierre, la reine de Saba l'avait fait pour Salomon. Regina Saba Coram Rege Crura Denudavit. Skir Clark Dus in Proemio Taric Jersiki F 65. Donc c'était correct, l'écriture sainte ayant créé le précédent. Ce qui est biblique peut être anglican. Le précédent biblique va même jusqu'à faire un enfant qui s'appelle Ebnéakem ou Méliéché, c'est-à-dire le fils du sage. Pourquoi pas ces mœurs ? Cynisme vaut bien hypocrisie. Aujourd'hui, l'Angleterre, qui a un Loyola appelé Wesley, baisse un peu les yeux devant ce passé. Elle en est contrariée, mais fière. Dans ces mœurs-là, le goût du difforme existait, particulièrement chez les femmes, et singulièrement chez les belles. À quoi bon être belle si l'on n'a pas un magot ? Que sert d'être reine si l'on n'est pas tutoyé par un poussa ? Marie Stuart avait eu des bontés pour un cron, Rizzio. Marie-Thérèse d'Espagne avait été un peu familière avec un nègre. D'où la baisse noire. Dans les alcôves du grand siècle, la bosse était bien portée. Témoin, le maréchal de Luxembourg. Et avant Luxembourg, Condé, ce petit homme tant joli. Les belles elles-mêmes pouvaient sans inconvénient être contrefaites. C'était accepté. Anne de Boleyn avait un sein plus gros que l'autre, 6 doigts à une main et 1 sur-dent. La Vallière était bancale, cela n'empêcha pas Henri VIII d'être insensé et Louis XIV d'être éperdu. Au moral, même déviation. Presque pas de femme dans les hauts rangs qui ne fût un cas tératologique. Agnès contenait Mélusine. On était femme le jour et goule la nuit. On allait en grève, baiser sur le pieu de fer des têtes fraîches coupées. Marguerite de Valois, une aïeule des précieuses, avait porté à sa ceinture sous cadenas, dans des boîtes de fer blanc cousues à son corps de jupe, tous les cœurs de ses amants morts. Henri IV s'était caché sous ce vertugadin-là. Au XVIIIe siècle, la duchesse de Berry, fille du régent, résuma toutes ces créatures dans un type obscène et royal. En outre, les belles dames savaient le latin. C'était, depuis le XVIe siècle, une grâce féminine. Jane Grey avait poussé l'élégance jusqu'à savoir l'hébreu. La duchesse Josiane latinisait. De plus, autre belle manière, elle était catholique. en secret, disons-le, et plutôt comme son oncle Charles II que comme son père Jacques II. Jacques, à son catholicisme, avait perdu sa royauté, et Josiane ne voulait point risquer sa pairie. C'est pourquoi, catholique dans l'intimité et entre raffinés et raffinés, elle était protestante extérieure, pour la canaille. Cette façon d'entendre la religion est agréable. On jouit de tous les biens attachés à l'église officielle épiscopale, et plus tard, on meurt, comme Grotius, en odeur de catholicisme, et l'on a la gloire que le père Pétaud dise une messe pour vous. Quoique grasse et bien portante, Josiane était, insistons-y, une précieuse parfaite. Par moments, sa façon dormante et voluptueuse de traîner la fin des phrases imitait les allongements de pattes d'une tigresse marchant dans les jongles. L'utilité d'être précieuse, c'est que cela déclasse le genre humain. On ne lui fait plus l'honneur d'en être. Avant tout, mettre l'espèce humaine à distance, voilà ce qui importe. Quand on n'a pas l'Olympe, on prend l'hôtel de Rambouillet. Junon se résout en Araminte. Une prétention de divinité non admise crée la mijaurée. À défaut de coup de tonnerre, on a l'impertinence. Le temple se ratatine en boudoir. Ne pouvant être déesse, on est idole. Il y a en outre dans le précieux une certaine pédanterie qui plaît aux femmes. La coquette et le pédant sont deux voisins. Leur adhérence est visible dans le fin. Le subtil dérive du sensuel. La gourmandise affecte la délicatesse. Une grimace dégoûtée sied à la convoitise. Et puis le côté faible de la femme se sent gardé par toute cette casuistique de la galanterie qui tient lieu de scrupules aux précieuses. C'est une circonvallation avec fossé. Toute précieuse a un air de répugnance. Cela protège. On consentira, mais on méprise. En attendant. Josiane avait un fort intérieur inquiétant. Elle se sentait une telle pente à l'impudeur qu'elle était bégueule. Les reculs de fierté en sens inverse de nos vices nous mènent au vice contraire. L'excès d'effort pour être chaste la faisait prude. Être trop sur la défensive, cela indique un secret désir d'attaque. Qui est farouche n'est pas sévère. Elle s'enfermait dans l'exception arrogante de son rang et de sa naissance, tout en préméditant peut-être, nous l'avons dit, quelques brusques sorties. On était à l'aurore du XVIIIe siècle. L'Angleterre ébauchait ce qui a été en France la Régence. Walpole et Dubois se tiennent. Marlborough se battait contre son ex-roi Jacques II, auquel il avait, disait-on, vendu sa sœur Churchill. On voyait briller Bolingbroke et poindre Richelieu. La galanterie trouvait commode une certaine mêlée des rangs. Le plain-pied se faisait par les vices. Il devait se faire plus tard par les idées. L'encanaillement, prélude aristocratique, commençait ce que la Révolution devait achever. On n'était pas très loin de Géliot, publiquement assis en plein jour sur le lit de la marquise d'Épinay. Il est vrai, car les mœurs se font écho, que le XVIe siècle avait vu le bonnet de nuit de Smeaton sur l'oreiller d'Anne de Boleyn. Si femme signifie faute, comme je ne sais plus quel concile l'a affirmé, jamais la femme n'a plus été femme qu'en ce temps-là. Jamais, couvrant sa fragilité de son charme, et sa faiblesse de toute sa puissance, elle ne s'est plus impérieusement fait absoudre. Faire du bruit défendu le fruit permis, c'est la chute d'Ève. Mais faire du fruit permis le fruit défendu, c'est son triomphe. Elle finit par là. Au XVIIIe siècle, la femme tire le verrou sur le mari. Elle s'enferme dans l'Éden avec Satan, Adam et dehors. Tous les instincts de Josiane inclinaient plutôt à se donner galamment qu'à se donner légalement. Se donner par galanterie implique de la littérature, rappelle Ménalque et Amaryllis, et est presque une action docte. Mademoiselle de Scudéry, l'attrait de la laideur pour la laideur mise à part, n'avait pas eu d'autre motif pour céder à Pélisson. La fille souveraine et la femme sujette, telles sont les vieilles coutumes anglaises. Josiane différait le plus qu'elle pouvait l'heure de cette suggestion. Qu'il fallut en venir au mariage avec Lord David, puisque le bon plaisir royal l'exigeait, c'était une nécessité sans doute. Mais quel dommage! Josiane agréait et conduisait Lord David. Il y avait entre eux accord tacite pour ne point conclure et pour ne point rompre. Ils s'éludaient. Cette façon de s'aimer, avec un pas en avant et deux pas en arrière, est exprimée par les danses du temps, le menuet et la gavotte. Être des gens mariés, cela ne va pas à l'air du visage. Cela fane les rubans qu'on porte. Cela vieillit. L'épousaille, solution désolante de clarté. La livraison d'une femme par un notaire, quelle platitude! La brutalité du mariage crée des situations définitives, supprime la volonté, tue le choix, a une syntaxe comme la grammaire, remplace l'inspiration par l'orthographe, fait de l'amour une dictée, met en déroute le mystérieux de la vie, inflige la transparence aux fonctions périodiques et fatales, ôte du nuage l'aspect en chemise de la femme, donne des droits diminuants pour qui les exerce comme pour qui les subit, dérange par un penchement de balance tout d'un côté le charmant équilibre du sexe robuste et du sexe puissant, de la force et de la beauté, et fait ici un maître et là une servante. Tandis que, hors du mariage, il y a un esclave et une reine. Prosaïser le lit jusqu'à le rendre décent, conçoit-on rien de plus grossier? Qu'il n'y ait plus de mal du tout à s'aimer, est-ce assez bête? Lord David mûrissait. 40 ans, c'est une heure qui sonne. Il ne s'en apercevait pas, et de fait il avait toujours l'air de ses 30 ans. Il trouvait plus amusant de désirer Josiane que de la posséder. Il en possédait d'autres. Il avait des femmes. Josiane, de son côté, avait des songes. Les songes étaient pires. La duchesse Josiane avait cette particularité, moins rare du reste qu'on ne croit, qu'un de ses yeux était bleu et l'autre noir. Ses prunelles étaient faites d'amour et de haine, de bonheur et de malheur. Le jour et la nuit étaient mêlés dans son regard. Son ambition était ceci, se montrer capable de l'impossible. Un jour, elle avait dit à Swift, « Vous vous figurez, vous autres, que votre mépris existe ?»« Vous autres, c'était le genre humain. » Elle était papiste à fleur de peau. Son catholicisme ne dépassait point la quantité nécessaire pour l'élégance. Ce serait du puséisme aujourd'hui. Elle portait de grosses robes de velours, ou de satin, ou de moire, quelques-unes amples de 15 et 16 aunes, et des entoilages d'or et d'argent, et autour de sa ceinture, force nœuds de perles alternés avec des nœuds de pierreries. Elle abusait des galons. Elle mettait parfois une veste de drap passementée comme un bachelier. Elle allait à cheval sur une selle d'homme, en dépit de l'invention des selles de femmes introduites en Angleterre au XIVe siècle par Anne, femme de Richard II. Elle se lavait le visage, les bras, les épaules et la gorge avec du sucre candi, délayé dans du blanc d'œuf, à la mode castillane. Elle avait, après qu'on avait spirituellement parlé auprès d'elle, un rire de réflexion d'une grâce singulière. Du reste, aucune méchanceté. Elle était plutôt bonne. Livre 4. Magister Elegantiarum. Josiane s'ennuyait, cela va sans dire. Lord David Derrymore avait une situation magistrale dans la vie joyeuse de Londres. Nobility et gentry le vénéraient. Enregistrons une gloire de Lord David. Il osait porter ses cheveux. La réaction contre la perruque commençait. De même qu'en 1821, Eugène de Veria osa le premier laisser pousser sa barbe, en 1702, Price Devereux osa le premier hasarder en public, sous la dissimulation d'une frisure savante, sa chevelure naturelle. Risquer sa chevelure, c'était presque risquer sa tête. L'indignation fut universelle. Pourtant, Price Devereux était vicomte Hereford et pair d'Angleterre. Il fut insulté, et le fait est que la chose en valait la peine. Au plus fort de la huée, Lord David parut tout à coup, lui aussi, avec ses cheveux et sans perruque. Ces choses-là annoncent la fin des sociétés. Lord David fut honni plus encore que le vicomte Hereford. Il tint bon. Price Devereux avait été le premier. David Derrymore fut le second. Il est quelquefois plus difficile d'être le second que le premier. Il faut moins de génie, mais plus de courage. Le premier, enivré par l'innovation, a pu ignorer le danger. Le second voit l'abîme et s'y précipite. Cet abîme, ne plus porter perruque, David Derrymore s'y jeta. Plus tard, on les imita. On eut, après ces deux révolutionnaires, l'audace de se coiffer de ses cheveux. Et la poudre vint, comme circonstance atténuante. Pour fixer en passant cet important point d'histoire, disons que la vraie priorité dans la guerre à la perruque appartiendrait à une reine, Christine de Suède, laquelle mettait des habits d'homme et s'était montrée, dès 1680, avec ses cheveux châtains naturels, poudrés et hérissés, sans coiffure, en tête naissante. Elle avait en outre quelques poils de barbe, dit Misson. Le pape, de son côté, par sa bulle de mars 1691, avait un peu déconsidéré la perruque en l'ôtant de la tête des évêques et des prêtres et en ordonnant aux gens d'église de laisser pousser leurs cheveux. Lord David, donc, ne portait pas perruque et mettait des bottes de peau de vache. Ces grandes choses le désignaient à l'admiration publique. Pas un club dont il ne fût le leader. Pas une boxe où on ne le souhaitât pour referouer. Le referouer, c'est l'arbitre. Il avait rédigé les chartes de plusieurs cercles de la High Life. Il avait fait des fondations d'élégance, dont une, Lady Guinea, existait encore à Pall Mall en 1772. Lady Guinea était un cercle où foisonnait toute la jeune lordship. On y jouait. Le moindre enjeu était un rouleau de 50 guinées, et il n'y avait jamais moins de 20 000 guinées sur la table. Près de chaque joueur se dressait un guéridon pour poser la tasse de thé et la sibylle de bois doré où l'on met les rouleaux de guinées. Les joueurs avaient, comme les valets quand ils fourbissent les couteaux, des manches de cuir, lesquels protégeaient leurs dentelles, des plastrons de cuir qui garantissaient leurs fraises, et sur la tête, pour abriter leurs yeux, à cause de la grande lumière des lampes, et maintenir en ordre leur frisure, de larges chapeaux de paille couverts de fleurs. Ils étaient masqués pour qu'on ne vît pas leur émotion, surtout au jeu de 15. Tous avaient sur le dos leurs habits à l'envers, afin d'attirer la chance. Lord David était du Beefsteak Club, du Surly Club et du Split Farthing Club, du club des bourrus et du club des gratte-sous, d'une scellée, scellée de knock, club des royalistes, et du Martinus Criberus, fondé par Swift, en remplacement de la Rota, fondée par Milton. Quoique beau, il était du club des laids. Ce club était dédié à la difformité. On y prenait l'engagement de se battre, non pour une belle femme, mais pour un homme laid. La salle du club avait pour ornement des portraits hideux. Tersite, Triboulet, Duns, Hudibras, Scarron. Sur la cheminée était Ésope entre deux borgnes, Coclès et Camoens. Coclès étant borgne de l'œil gauche et Camoens de l'œil droit. Chacun était sculpté de son côté borgne, et ces deux profils sans yeux se faisaient vis-à-vis. Le jour où la belle Madame Vizard eut la petite Vérole, le club des laits lui porta un toast. Ce club fleurissait encore au commencement du XIXe siècle. Il avait envoyé un diplôme de membre honoraire à Mirabeau. Depuis la restauration de Charles II, les clubs révolutionnaires étaient abolis. On avait démoli, dans la petite rue avoisinant Moorfields, la taverne où se tenait le Calf's Head Club, club de la tête de veau, ainsi nommé parce que le 30 janvier 1649, jour où coula sur l'échafaud le sang de Charles Ier, on y avait bu dans un crâne de veau du vin rouge à la santé de Cromwell. Au club républicain avaient succédé les clubs monarchiques. On s'y amusait décemment. Il y avait le Sherwomps Club. On prenait dans la rue une femme, une passante, une bourgeoise, aussi peu vieille et aussi peu laide que possible. On la poussait dans le club, de force, et on la faisait marcher sur les mains, les pieds en l'air, le visage voilé par ses jupes retombantes. Si elle y mettait de la mauvaise grâce, on cinglait un peu de la cravache ce qui n'était plus voilé. C'était sa faute. Les écuyers de ce genre de manège s'appelaient les sauteurs. Il y avait le club des éclairs de chaleur, métaphoriquement « May we dance ». On y faisait danser par des nègres et des blanches les danses des piquantes et des tintirimbas du Pérou, notamment la mozamala, mauvaise fille, danse qui a pour triomphe la danseuse s'asseyant sur un tas de sons auxquels, en se relevant, elle laisse une empreinte calipige. On s'y donnait pour spectacle un verre de Lucrèce. « Tunc Venus in silvis jungebat corpora amantum ». Il y avait le Hellfire Club, club des flammes, où l'on jouait à être impie. C'était la joute des sacrilèges. L'enfer y était l'enchère du plus gros blasphème. Il y avait le club des coups de tête, ainsi nommé parce qu'on y donnait des coups de tête aux gens. On avisait quelques portefaix à large poitrail et à l'air imbécile. On lui offrait, et au besoin on le contraignait d'accepter, un pot de porter pour se laisser donner 4 coups de tête dans la poitrine. Et là-dessus, on pariait. Une fois, un homme, une grosse brute de Gallois nommée Gogangerd, expira au 3e coup de tête. Ceci parut grave. Il y eut enquête. Et le jury, d'indictement, rendit ce verdict « mort d'un gonflement de cœur causé par excès de boisson ». Gogonderg avait en effet bu le pot de porter. Il y avait le Fun Club. Fun est, comme Kant, comme humour, un mot spécial intraduisible. Le fun est à la farce ce que le piment est au sel. Pénétrer dans une maison, y briser une glace de prix, y balafrer les portraits de famille, empoisonner le chien, mettre un chat dans la volière, cela s'appelle tailler une pièce de fun. Donner une fausse mauvaise nouvelle qui fait prendre aux personnes le deuil à tort, c'est du fun. C'est le fun qui a fait un trou carré dans un Holbein Hampton Court. Le fun serait fier si c'était lui qui avait cassé les bras à la Vénus de Milo. Sous Jacques II, un jeune lord millionnaire qui avait mis le feu la nuit à une chaumière fit rire Londres aux éclats et fut proclamé roi du fun. Les pauvres diables de la chaumière s'étaient sauvés en chemise. Les membres du Fun Club, tous de la plus haute aristocratie, courez Londres à l'heure où les bourgeois dorment. Arrachez les gonds des volets, coupez les tuyaux des pompes, défoncez les citernes, décrochez les enseignes, saccagez les cultures, éteignez les réverbères, sciez les poutres des tais des maisons, cassez les carreaux des fenêtres, surtout dans les quartiers indigents. C'étaient les riches qui faisaient cela aux misérables. C'est pourquoi nulle plainte possible. D'ailleurs, c'était de la comédie. Ces mœurs n'ont pas tout à fait disparu. Sur divers points de l'Angleterre ou des possessions anglaises, Guernesey, par exemple, de temps en temps, on vous dévaste un peu votre maison la nuit. On vous brise une clôture, on vous arrache le marteau de votre porte, etc. Si c'était des pauvres, on les enverrait au bagne. Mais ce sont d'aimables jeunes gens. Le plus distingué des clubs était présidé par un empereur qui portait un croissant sur le front et qui s'appelait le Grand Mohawk. Le Mohawk dépassait le fun. Faire le mal pour le mal, tel était le programme. Le Mohawk Club avait ce but grandiose, nuire. Pour remplir cette fonction, tous les moyens étaient bons. En devenant Mohawk, on prêtait serment d'être nuisible. Nuire à tout prix, n'importe quand, à n'importe qui et n'importe comment, était le devoir. Tout membre du Mohawk Club devait avoir un talent. L'un était maître de danse, c'est-à-dire faisait gambader les manants en leur lardant les mollets de son épée. D'autres savaient faire suer, c'est-à-dire improviser autour d'un bélitre quelconque une ronde de 6 ou 8 gentilshommes, la rapière à la main. Étant entouré de toutes parts, il était impossible que le bélitre ne tournât pas le dos à quelqu'un. Le gentilhomme à qui l'homme montrait le dos l'en châtiait par un coup de pointe qui le faisait pirouetter. Un nouveau coup de pointe au rein avertissait le quidam que quelqu'un de noble était derrière lui, et ainsi de suite, chacun piquant à son tour. Quand l'homme, enfermé dans ce cercle d'épée et tout ensanglanté, avait assez tourné et dansé, on le faisait bâtonner par des laquais pour changer le cours de ses idées. D'autres tapaient le lion, c'est-à-dire arrêtaient en riant un passant, lui écrasaient le nez d'un coup de poing et lui enfonçaient leurs 2 pouces dans les 2 yeux. Si les yeux étaient crevés, on les lui payait. C'était là, au commencement du XVIIIe siècle, les passe-temps des opulents oisifs de Londres. Les oisifs de Paris en avaient d'autres. Monsieur de Charolais lâchait son coup de fusil sur un bourgeois sur le seuil de sa porte. De tout temps, la jeunesse s'est amusée. Lord David Dirry-Moore apportait dans ses diverses institutions de plaisir son esprit magnifique et libéral. Tout comme un autre, il brûlait gaiement une cabane de chaume et de bois, et roussissait un peu ce qui était dedans. Mais il leur rebâtissait leur maison en pierre. Il lui arriva de faire danser sur les mains 2 femmes dans le Sheerwamps Club. L'une était fille, il la dota. L'autre était mariée, il fit nommer son mari chapelain. Les combats de coq lui durent de louables perfectionnements. C'était merveille de voir Lord David habiller un coq pour le combat. Les coqs se prennent aux plumes comme les hommes aux cheveux. Aussi, Lord David faisait-il son coq le plus chauve possible. Il lui coupait avec des ciseaux toutes les plumes de la queue et, de la tête aux épaules, toutes les plumes du cou. Autant de moins pour le bec de l'ennemi, disait-il. Puis il étendait les ailes de son coq et taillait en pointe chaque plume, l'une après l'autre. Et cela faisait les ailes garnies de dards. « Voilà pour les yeux de l'ennemi, » disait-il. Ensuite, il lui grattait les pattes avec un canif, lui aiguisait les ongles, lui emboîtait dans le maître ergot un éperon d'acier, aigu et tranchant. Lui crachait sur la tête, lui crachait sur le cou, loignait de salive comme on frottait d'huile les athlètes, et le lâchait, terrible, en s'écriant « Voilà comment d'un coq on fait un aigle !» Et comment la bête de basse-cour devient une bête de la montagne. Lord David assistait au boxe, et il en était la règle vivante. Dans les grandes performances, c'était lui qui faisait planter les pieux et tendre les cordes, et qui fixait le nombre de toises qu'aurait le carré de combat. S'il était second, il suivait pied à pied son boxeur, une bouteille dans une main, une éponge dans l'autre. Lui criait « Strike fair !»« Frappe ferme !» Lui suggérait les ruses, le conseillait combattant, l'essuyait sanglant, le ramassait renversé, le prenait sur ses genoux, lui mettait le goulot entre les dents, et de sa propre bouche pleine d'eau lui soufflait une pluie fine dans les yeux et dans les oreilles, ce qui ranime le mourant. S'il était arbitre, il présidait à la loyauté des coups, interdisait à qui que ce fût, hors les seconds, d'assister les combattants, déclarait vaincu le champion qui ne se plaçait pas bien en face de l'adversaire, veillait à ce que le temps des rondes ne dépassât pas une demi-minute, faisait obstacle au butting, donnait tort à qui cognait avec la tête, empêchait de frapper l'homme tombé à terre. Toute cette science ne le faisait point pédant et n'ôtait rien à son aisance dans le monde. Ce n'est pas quand il était refoué d'une boxe que les partenaires hâlés, bourgeonnés et velus de celui-ci ou de celui-là se fussent permis, pour venir en aide à leur boxeur faiblissant et pour culbuter la balance des paris, d'enjamber la palissade, d'entrer dans l'enceinte, de casser les cordes, d'arracher les pieux et d'intervenir violemment dans le combat. Lord David était du petit nombre des arbitres qu'on ose rosser. Personne n'entraînait comme lui. Le boxeur, dont il consentait à être le trainer, était sûr de vaincre. Lord David choisissait un Hercule, massif comme une roche, haut comme une tour, et en faisait son enfant. Faire passer de l'état défensif à l'état offensif cet écueil humain, tel était le problème. Il y excellait. Une fois le cyclope adopté, il ne le quittait plus. Il devenait nourrice. Il lui mesurait le vin, il lui pesait la viande, il lui comptait le sommeil. Ce fut lui qui inventa cet admirable régime d'athlète, renouvelé depuis par Morellet. Le matin, un œuf cru et un verre de sherry. À midi, gigot saignant et thé. À 4 heures, pain grillé et thé. Le soir, pâle hâle et pain grillé. Après quoi, il déshabillait l'homme, le massait et le couchait. Dans la rue, il ne le perdait pas de vue, écartant de lui tous les dangers, les chevaux échappés, les roues de voiture, les soldats ivres, les jolies filles. Il veillait sur sa vertu. Cette sollicitude maternelle apportait sans cesse quelques nouveaux perfectionnements à l'éducation du pupille. Il lui enseignait le coup de poing qui casse les dents et le coup de pouce qui fait jaillir l'œil. Rien de plus touchant. Il se préparait de la sorte à la vie politique à laquelle il devait plus tard être appelé. Ce n'est pas une petite affaire que de devenir un gentilhomme accompli. Lord David Dirry-Moore aimait passionnément les exhibitions de carrefour, les tréteaux à parade, les circus à bêtes curieuses, les baraques de saltimbanques, les clowns, les tartailles, les pasquins, les farces en plein vent et les prodiges de la foire. Le vrai seigneur est celui qui goûte de l'homme du peuple. C'est pourquoi Lord David hantait les tavernes et les cours des miracles de Londres et des Saint-Port. Afin de pouvoir, au besoin, sans compromettre son rang dans l'escadre blanche, se colter avec un gabier ou un calfat, il mettait, quand il allait dans ses bas-fonds, une jaquette de matelot. Pour ses transformations, ne pas porter perruque lui était commode, car même sous Louis XIV, le peuple a gardé ses cheveux, comme le lion sa crinière. De cette façon, il était libre. Les petites gens que Lord David rencontrait dans ses cohues et auxquelles il se mêlait le tenaient en haute estime et ne savaient pas qu'il fût Lord. On l'appelait Tom Jim Jake. Sous ce nom, il était populaire et fort illustre dans cette crapule. Il s'en canaillait en maître. Dans l'occasion, il faisait le coup de poing. Ce côté de sa vie élégante était connu et fort apprécié de Lady Josiane.